Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Gérard Mauger, je suis sociologue, directeur de recherche au CNRS. Je suis aussi directeur adjoint du Centre de sociologie européenne, c'était le laboratoire de Pierre Bourdieu. Voilà, je suis quoi encore, membre d'ATAC et du collectif Raison d'agir, qui était un groupe de réflexion politique fondé par Pierre Bourdieu en 95.
Voilà, je suis impressionnée. Oh là là. Alors, mais moi, c'était pour une question toute bête hein, que j'ai fait déplacer un monsieur comme vous. C'est que l'autre jour, avec les techniciens et des animateurs, on était en train de parler du CPE, hein, cette saison. Et puis, l'un d'entre eux me dit, mais je comprends pas, pourquoi on se met pas tout simplement en France, pourquoi on sait pas en France se mettre autour d'une table et puis discuter sereinement pour essayer de résoudre les problèmes. Et puis moi, bêtement, j'ai pas su lui répondre. Hein. Alors, je compte sur vous.
Je suis pas sûr que ce soit très simple, mais enfin bon, je veux bien essayer. D'abord en disant que c'est une préoccupation très ancienne dans l'histoire. Les philosophes français, et pas seulement français, se sont préoccupés aussi de comment faire pour créer un espèce de consensus. Hein, c'était, je sais pas, dans l'ordre politique, je pense à Rousseau, par exemple, et à son contrat social. C'était, je pense, un exemple archétypal de tentative de trouver un espèce d'accord, comme ça, où de l'intérêt particulier de chacun naîtrait une volonté générale, telle que le respect de cette volonté générale permettra à chacun de respecter ses intérêts particuliers. Bon, voilà, je schématise, mais grosso modo, c'est ça. C'est important, parce que je pense que ça a donné lieu à de multiples variantes. Dans l'ordre économique, je pense, de façon très classique, Adam Smith aussi, hein, qui développe cette idée libérale qui court encore les rues aujourd'hui, où l'idée, dont l'idée schématiquement est la suivante, hein, c'est l'intérêt général naît de la poursuite par chacun de ses intérêts particuliers sur un marché libre et non faussé. Voilà, donc ce thème de la recherche d'un consensus qui ferait que il n'y aurait plus de conflits, tout le monde arriverait à s'accorder, etc. Bon, là, je crois un thème très très ancien. C'est celui qui amusait beaucoup Marx, de l'idéologie allemande, un texte qui est toujours merveilleusement d'actualité et souvent extraordinairement drôle. Marx moquait de ce type de tentative. Je me souviens vaguement comme ça, il parlait de Saint-Sanchot, par exemple, hein, qui, disait-il, invitait les hommes à renoncer à l'idée de conflit. Voilà. Tout irait mieux si les hommes renonçaient à l'idée de conflit. Alors bon, Marx le développe, après ça l'amuse beaucoup. Alors pourquoi ça l'amuse? Ça l'amuse parce que si on pourrait souhaiter, comme ça, dans un monde rêvé ou dans la tête des philosophes, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, que les hommes soient pacifiques et bons et s'entendent tous très très bien, force est de constater que c'est pas comme ça que ça se passe, hein, que le conflit est omniprésent. Après, on a été un grand historien pour ça, c'est le conflit de tous les temps, il est universel, il se déroule constamment, au fil du temps, sur de multiples scènes, hein, sur la scène politique ou sur le champ des luttes de classe. Je sais pas, je vais faire des histoires élémentaires, mais pour rappeler des choses que tout le monde connaît, quoi. Bon, 1789, il s'est passé quelque chose en France, qui avait à voir, de toute évidence, en dépit de toutes les controverses qu'on voudra, avec des luttes qui opposaient des classes opposées. 1848, ça recommence. 1871, la Commune, rebelote. 1936, le Front populaire. Hein, 1968, bien qu'aujourd'hui on voudrait que ça ait été un monôme étudiant, enfin quand même, bon, c'est aussi un moment très fort qu'on peut appeler un moment de lutte de classe, ce qui fait dire d'ailleurs au même Marx dans le manifeste, hein, l'histoire de toutes nos sociétés jusqu'à nos jours, c'est l'histoire des luttes de classe. Bon, c'est une thèse forte comme ça. Bon, on peut la contester comme ça, mais enfin pas complètement, quoi. Dire que ça, le cours de l'histoire n'a rien à voir avec ce que Marx appelait la lutte des classes, je crois que c'est faire fort. Pourquoi? Tout simplement parce que effectivement l'histoire est faite de la manifestation et des affrontements d'intérêts antagonistes. Alors, il y a ces luttes-là, mais pas seulement. On pourrait aussi en ajouter bien d'autres. Hein. C'est-à-dire que je dis pas, moi, que l'histoire est faite simplement de l'histoire des luttes de classe. Il peut y avoir aussi des luttes sur d'autres terrains, des luttes religieuses, des conflits de génération aussi, qui peuvent être plus ou moins violents, mais parfois qui peuvent atteindre une intensité particulière, qui sont une clé de compréhension de ces conflits, des luttes de domination entre hommes-femmes, par exemple, aussi. Voilà, c'est aussi un conflit récurrent, lointain, etc., qui a fait que les hommes ont pu maintenir jusqu'à ce qu'ils, pendant longtemps, leur domination, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je crois encore de multiples façons leur domination, enfin, ça s'atténue, mais ça s'atténue pas comme ça par hasard, c'est aussi au prix de luttes spécifiques, donc vous voyez, d'autres types de conflits, hommes-femmes, bon, donc, qui opposent des groupes différents, des groupes transversaux par rapport aux classes sociales, puis aussi des conflits dans d'autres champs, et aussi des conflits symboliques, dans, je sais pas, des conflits religieux, mais on pourra aussi parler, je sais pas, des conflits littéraires entre les anciens et les modernes, des conflits dans les sciences sociales, pendant un temps, c'était les marxistes contre les autres, ou les structuralistes contre, je sais pas quoi, bon, enfin, voilà, donc, de très multiples conflits. Sans parler, bon, là aussi, des guerres entre États, etc., tout ce dont je n'ai pas parlé, quoi. Bon, donc, ouais, voilà, les conflits, il y en a partout, quoi. Donc, c'est un fait. Alors, on peut le déplorer, on peut trouver que c'est très triste que ce soit comme ça. Mais, voilà. Néanmoins, il y a des conflits constamment, et s'il y en a, c'est parce qu'il y a des conflits d'intérêts.
Oui, mais là, on pourrait vous dire, en tous les cas, on a l'impression que depuis à peu près une trentaine d'années, il n'y a plus vraiment de conflits parce qu'on est tous dans la même barque et qu'on doit tous lutter pour assurer la compétitivité de la France, notre place dans l'organisation économique internationale.
Oui. Alors, par rapport à ça, deux choses. Hein. Je renoue un tout petit peu pour un mot encore sur ce que je venais de dire. Je disais le conflit est partout. Et en même temps, je dis si on peut s'étonner, et certains s'étonnent apparemment d'une France en particulier qui serait particulièrement frondeuse, querelleuse, bon, etc. Le village d'Astérix, quoi. Bon, voilà. Alors, en même temps, on peut s'étonner tout aussi bien de ce que l'ordre social règne la plupart du temps, de façon générale. Bon, il se passe rien, ou pas grand-chose, quoi, aussi, hein, des petites luttes, mais des luttes de faible intensité, des luttes symboliques, sans doute, mais des affrontements durs, prolongés, etc., bon, c'est quand même relativement rare dans l'histoire. Donc, c'est, je pense, pour des sociologues dont je suis, bon, une question tout à fait importante, justement, que de comprendre comment, en fait, en dépit de l'objectivité de conflits d'intérêts tout à fait évident, bon, qui oppose les dominants aux dominés, pour faire simple, quand se dit que l'ordre règne, quoi, bon, voilà, de façon générale, voilà. C'était une question centrale pour Pierre Bourdieu, qui a construit une espèce de, bon, je pense, de théorie explicative très forte autour du concept de violence symbolique, qui permet de comprendre pourquoi, de façon générale, l'ordre règne. Je pense, grosso modo, la violence symbolique, ça peut se décliner de deux façons. C'est d'une part, tout ce qui est fait, tout ce qui est déployé comme effort pour convaincre les dominés que l'ordre social tel qu'il est un ordre social légitime, c'est-à-dire très souvent un ordre social naturel, fondé en droit, en mérite, ou c'est la volonté de Dieu, enfin bon, ça a varié au fil des temps, hein, mais enfin voilà, c'est un ordre universel légitime, donc il faut convaincre de la légitimité de l'ordre, d'une part, et puis d'autre part, il faut leur accorder des compensations, quoi, bon, donc on leur cède aussi des compensations aux dominés, un coup de temps en temps, quand ils s'énervent un peu trop, quoi. Alors, je schématise un peu cruellement, mais d'une certaine façon, on pourrait dire d'ailleurs que les années d'après-guerre en France, celle où s'est construit l'État social, comme on dit aujourd'hui, hein, a été une espèce de compromis qui s'est établi justement entre des forces antagonistes, c'est un compromis conflictuel, mais qui a permis que s'établisse une espèce de consensus autour d'un ordre. Qui était celui des Trente Glorieuses, comme on dit, et de l'État-providence ou de l'État social, comme on voudra. Alors, j'en viens plus directement à cette question, à la question que vous me posez, celle de l'ordre social néolibéral qui s'est imposé petit à petit dans les faits et dans les esprits, au prix de ce qu'on pourrait appeler, ou de ce que Bourdieu, je le cite encore, pardonnez-moi, une révolution conservatrice. Voilà, c'est une révolution conservatrice néolibérale qui se met en place au partir de la deuxième moitié des années 70 en France, grosso modo, pour faire vite. Pour comprendre cette espèce de retournement, en quelque sorte, par rapport aux Trente Glorieuses dont je parlais tout à l'heure, et de cette espèce de compromis qui s'était établi, là il y a un déséquilibre du compromis, un basculement, en quelque sorte, de l'ordre social qui s'était établi, du consensus sur un certain ordre qui s'était établi, mais qui était lié à l'état d'un rapport de force. On voit, je crois, le rapport de force entre les classes, pour faire vite, dans les luttes d'influence dans les différents champs politiques, scientifiques, idéologiques, etc., bon, on voit cet ordre basculer. Bon, alors je pense qu'il y a, par rapport à ce basculement, il y a deux choses qui me sont importantes. Il y a d'une part la disqualification, on pourrait dire, des classes populaires pour faire vite. Cette disqualification des classes populaires, je crois qu'elle est à la fois économique, ça tout le monde le sait, hein, c'est la disparition de pans entiers des grands bastions ouvriers, des grandes industries, les mines, la sidérurgie, etc. C'est autant de défaites qui signent la démobilisation politique des bastions du monde ouvrier, des valeurs aussi de virilité attachées à ce monde, qui ont contribué très fortement, je crois, à la déstructuration des classes populaires. D'autre part, on pourrait dire disqualification politique, c'est, tout le monde sait ça aussi, c'est le déclin du PC, le déclin de la CGT, l'effondrement du mur de Berlin, du socialisme réel, donc du paradis rêvé, etc. Bon, tout ça se casse la gueule. C'est aussi la disqualification symbolique, c'est le déclin du marxisme, c'est la perte des mots d'attributs, ce qu'on pourrait appeler comme ça. Vous voyez, c'est très intéressant de voir comment on a les médias beaucoup, les savants aussi contribué à défaire les mots d'attributs, c'est-à-dire vous voyez, faire perdre tout le vocabulaire. Vous voyez, les usines sont devenues des entreprises, les patrons sont devenus des entrepreneurs, les grèves des mouvements sociaux. Il y avait une espèce de l'invention d'un nouveau lexique qui est aussi une façon de perdre les repères. Bon, on pourrait continuer comme ça, mais je pense que on voit la ligne générale, on peut développer, je crois, facilement. Alors l'autre aspect, c'est d'une part, donc vous voyez, c'est d'une part on perd, et d'autre part on est à l'offensive. C'est-à-dire que ce triomphe ou cette quasi-hégémonie néolibérale qui est en train de se mettre en place, elle est aussi le résultat d'un travail politique et symbolique de conquête. Qui s'est mis en place de façon stratégique, organisée, assez consciente. Keith Dixon raconte ça très bien, un livre s'appelle Les évangélistes du marché, comment depuis la société du Mont Pèlerin, ces gens, ces pèlerins, en l'occurrence du néolibéralisme, ont essaimé à travers le monde et à travers les classes dominantes. En France, je pense par exemple à des choses simples, c'est comment par exemple le néolibéralisme est devenu la pensée officielle des écoles du pouvoir, à commencer par Sciences Po et l'ENA, comment c'est devenu la pensée officielle des écoles de commerce, bien sûr, HEC, les mais aussi toutes ces flopées de petites écoles qui distillent la pensée néolibérale sous forme de l'idéologie managériale, pour faire vite, qui me semble être ce qu'on appelle la pensée unique. C'est vrai, ça peut se décrire, s'objectiver, ces choses-là. C'est vrai aussi, vous voyez, par exemple, entre, ça vous intéresse, les rapports dans universitaires entre l'économie et la gestion. L'économie, petit à petit, cède le pas à la gestion. Cette espèce de discipline inventée, cette discipline roturière, plébéienne, en train de devenir la discipline dominante et même de dominer l'économie au sein de l'université. Vous voyez, tous ces renversements sont autant d'indications, je crois, de ce triomphe de la pensée libérale. Alors, les écoles du pouvoir, la droite et la gauche, cette droite et cette gauche de gouvernement, comme on dit, c'est-à-dire cette droite et cette gauche qui est celle des professionnels de la politique, a été petit à petit contaminée par cette pensée néolibérale tout entière, droite et gauche confondues. Et pourquoi? C'est tous des énarques qui viennent tous du même endroit, ils ont été formés à la même école, ils croient, je crois, réellement à cette pensée devenue d'autant plus crédible qu'elle est unique, tout le monde pense pareil, donc c'est vrai, ça devient une pensée universelle, plus sans compter l'expérience du gouvernement, etc. Bon, alors c'est vrai pour les élites, comme on dit, je viens de le dire très vite, pour les élites politiques, les élites médiatiques formées aux mêmes écoles, c'est pareil, et dans l'univers scientifique où je suis, malheureusement, ça gagne du terrain, et nous en perdons constamment. En clair, je pense que le résultat, c'est le triomphe, je pense que quelque chose qu'on va appeler comme l'hégémonie de la pensée néolibéral dans le champ politique, dans le champ intellectuel, dans le champ médiatique. Alors cette hégémonie, c'est la façon peut-être de la formuler au plus vite, c'est la phrase de Fukuyama, c'est la fin d'histoire, c'est terminé, on est enfin arrivé à un stade où l'ordre règne, l'ordre naturel règne, naturel donc universel, donc aussi éternel, donc aussi intangible, parce que cet ordre néolibéral se présente comme un ordre fatal contre lequel on ne peut rien, et que dans l'ordre des choses.
Des sous et des hommes, donc en compagnie de Gérard Mouget, qui est directeur de recherche au CNRS et donc sociologue. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot néolibéralisme. Vous essayez à nouveau de plonger les choses dans un plan idéologique. Peut-être qu'il faut savoir aussi en sortir, parce que on est confronté à de graves difficultés, notamment avec le chômage. Non ?
Oui, c'est vrai, on peut pas nier que le chômage, en tout cas ceux qui le subissent, ceux qui sont chômeurs ou précarisés, soit pas une difficulté majeure dans leur vie par rapport à toute espèce de projet d'avenir, etc. Donc que ce soit effectivement une situation difficile contre laquelle idéalement il faudrait entreprendre de lutter pour résorber le chômage et la précarité, on pourrait l'imaginer. D'ailleurs, à entendre ce qui se dit, on pourrait croire que là, le fameux consensus dont vous parliez tout à l'heure est réalisé. Tout le monde est contre le chômage, hein, les entendre, et tout le monde est absolument contre le chômage. Alors, vous allez dire que j'ai le mauvais esprit, peut-être. Moi, j'ai des doutes. Voilà. Moi, j'ai des doutes. Je suis pas très sûr que tout le monde soit tellement que ça, des fervents combattants contre le chômage. Ne serait-ce que parce que l'existence d'un chômage de masse est une arme de lutte formidable des classes dominantes contre les classes dominées. Je veux dire que bon, c'est une espèce de pression qui s'exerce sur tous ceux qui sont au travail pour les faire se tenir tranquilles. Bon, c'est vrai pour le chômage, hein. T'es pas content, dégage. Il y en a 50 qui attendent, quoi. Bon, le raisonnement est simple, mais formidablement efficace. C'est vrai pour le chômage, la menace donc que fait poser objectivement le chômage. C'est la même chose, je crois, avec tous ces contrats précaires où on dit à travers aux intérimaires ou aux mecs au CDD, bon, si t'es sage. Hein, si t'es sage, bon, peut-être t'auras un jour un CDI. Ils en ont jamais, bien sûr. Voilà. Faut voir ce que racontent, je sais pas, les enquêtes de Beau et Pialou sur Peugeot. Voilà, c'est très instructif. On comprend comment objectivement ça marche. Ce que je dis là, c'est pas une thèse abstraite. Hein, c'est pas reprendre simplement pour le plaisir d'emmerder le monde. Ce que disait Marx sur l'armée industrielle de réserve, c'est que, mon Dieu, c'est aussi extraordinairement opératoire. Donc à la fois l'existence même, hein, d'un fort volant de chômage, d'une armée industrielle de réserve, la précarisation du travail à travers donc le développement des contrats intérimaires, à travers le développement des CDD, etc., du travail temps partiel et tout ça, faisant miroiter, etc., c'est une arme pour rendre les travailleurs dociles, pour éviter les luttes. C'est extraordinairement pratique, quoi, faut bien dire, hein. Sans compter tout le reste, hein, la sous-traitance, etc., qui atomise les collectifs de travail, enfin, le raffinement, je dirais, des techniques de lutte de classe, on pourrait dire ça, des classes dominantes, à travers ce que j'appelais tout à l'heure stratégie idéologie, mais c'est pas aussi idéologie, c'est aussi stratégie, hein, néo-managériale, c'est aussi un truc, alors qu'il y a ses faiblesses, ses fragilités, mais qui est aussi formidablement efficace.
Oui, mais j'étais en train de penser qu'on pourrait vous dire que les dominés profitent d'une situation, mais qu'ils n'en ont pas forcément voulu.
Oui, bon, ça, effectivement, on peut aussi dire ça, hein. On peut aussi dire ça. Je suis pas sûr que ce soit absurde, d'ailleurs, hein. Je pense que c'est pas la peine non plus de les faire plus machiavéliques, plus tout puissants qu'ils ne sont. À vrai dire, dans le monde social, ceux qui prétendent gouverner sont bien arrogants. Ils gouvernent ce qu'ils peuvent et pas toujours grand chose. Bon, ça veut pas dire rien non plus, hein. Mais enfin, bon, je pense que l'idée de la toute puissance des politiques est une idée magique, un peu fausse, héritée d'un passé monarchique, de pouvoir droit divin absolu. Mais, pour ce qui est du chômage, en tout cas, on peut dire que c'est providentiel, quoi. On peut dire que c'est providentiel, ça aide bien, quoi. Alors ça, c'est un inconvénient, c'est parce que ça engendre, chacun sait ça, des troubles, la montée de la délinquance, la montée de l'insécurité, les émeutes dans les banlieues, machin, bon, ça n'a pas rien à voir avec tout ça, et c'est embêtant, parfois, quoi, donc ça a des inconvénients. Mais bon, je pense que ça n'a pas que des inconvénients. Alors peut-être qu'on pourrait dire, d'ailleurs, même, ou pour le montrer un peu mieux, ce que je dis là, c'est montrer que tous les dispositifs de lutte contre le chômage, parce qu'ils sont pas arrêtés de nous en pondre, ça fait 30 ans qu'on a des dispositifs de lutte contre le chômage, des jeunes en particulier, je pense qu'on peut les analyser sans mauvais esprit, enfin je crois pas, en tout cas j'ai essayé de le faire autrement, moi j'ai travaillé là-dessus pendant un temps, on peut les analyser comme des tentatives de déstabilisation, en quelque sorte, du code du travail, qui de façon récurrente, intensive, menée au nom du social. Ça, c'est une espèce de paradoxe, hein. On dit c'est pour mieux les insérer, etc. Mais pour mieux insérer ces jeunes en difficulté, comme on dit, depuis 30 ans, quoi. Je pense qu'on a inventé des dispositifs qui, de bonne ou de mauvaise foi, ont eu pour effet de contribuer à la déstabilisation du marché du travail et une précarisation accrue du marché du travail. C'est par là que sont rentrés l'intérim, les CDD, les emplois protégés, les contrats spéciaux, etc. D'une part, d'autre part, on voit bien la suite. La suite du film, on y est, là, hein. On y était il n'y a pas longtemps avec Balladur. Balladur fait quoi avec son CIP, hein? Il étend ses dispositifs pour les jeunes en difficulté, il l'étend jusqu'à Bac plus 2. Ah bah alors là, bon, ça passe pas, quoi, parce que pour le coup, les autres se disent, ah bah voilà, alors j'ai fait Bac plus 2, ça sert à rien, on va me payer 80% du SMIC, bon, c'est l'émeute dans les IUT, les STS, etc., c'est-à-dire des endroits qui n'étaient pas habituellement dans le monde étudiant, des endroits particulièrement révoltés, là, pour le coup, crac, c'est explosif, Balladur, prudent, dit, bon, marche arrière, lui, il retire, instantanément, c'est la faute de Villepin. C'est ce qu'il vient de faire. CPE, crac, qui refait exactement la même ânerie. Quoi. Hein, la même ânerie, enfin, stratégiquement bien fondée. Hein, c'est, bon, étendre la précarisation du marché du travail à tout le marché du travail jusqu'à 26 ans. Tout niveau de diplôme confondu. Donc, là aussi, il déclenche un véritable tollé de tous ceux qui sont évidemment concernés, qui le sont, de fait, par une précarisation généralisée du marché du travail. Donc l'objectif, je crois, il est tout à fait clair. Précarisation, pourquoi faire? Bah, je pense tout simplement pour, essentiellement, rendre cette main-d'œuvre docile. Hein, vous êtes en CPE, vous pouvez tirer pour rien d'ailleurs, sans motif, ça veut dire que bon, vous avez intérêt à vous tenir à carreau, à être sage, poli, docile et un fervent jeune salarié. Merci patron, je veux travailler encore plus tous les jours. Bon, voilà, c'est ce qu'on attend. Hein. Bon, alors c'est ça l'objectif. Bon, donc je pense que il illustre bien, je crois, bon, la permanence hein, à bas feu, cette espèce de forme de violence douce, la violence brutale, c'est la violence symbolique dont parlait Bourdieu, cette violence douce qui s'exerce en particulier sur le marché du travail, on la voit continuer à exister. Alors ce qui est amusant, c'est de voir que, bon, il y a des fois, voilà, en général ça passe, puis parfois ça casse. Voilà. Alors ça, c'est l'espèce de miracle de la vie sociale et les défis pour les sociologues, c'est de comprendre pourquoi, de temps en temps, justement, ça casse. Hein. Pourquoi l'ordre, comme ça, se lézarde, pourquoi il y a une faille qui se crée, et puis hop, ça résiste. Là, pour le coup, pour transformer le marché du travail, ça va être du mal, hein, je pense, pour un bon bout de temps. Alors, pourquoi ? Bon, je pense qu'il y a, entre autres, je pense qu'il y a des fautes symboliques majeures. Là, le CPE en était une, c'était pas prévisible, hein. Je pense que Villepin est pas plus con qu'un autre, mais dans l'occurrence, c'était quand même une belle connerie, quoi. Hein, je pense que afficher comme ça l'arbitraire, hein, un droit institutionnalisé à l'arbitraire, la précarité institutionnalisée, pour tout le monde. En plus, ils auraient fait ça pour Mustapha en banlieue avec -5, bon, on passe. Mais bon, alors maintenant, même ça, ça va plus passer, d'ailleurs. Parce que même s'ils vont essayer de rattraper le truc avec ça, quoi, dire non, c'est pas pour vous, là. Hein, les étudiants avec +5, non, vous êtes pas concernés, quoi. C'est juste pour Mustapha, quoi. Bon, mais même Mustapha, il va plus vouloir, quoi. Je pense qu'il là, ils ont fait, effectivement, une faute politique majeure. Alors, c'est une faute symbolique, voilà, parce que, justement, elle est telle qu'elle rend visible, finalement, des dessins qui sont d'habitude cachés. Hein. Bon, ça, c'est quand, finalement, ils vendent la mèche eux-mêmes, quoi. Bon, c'est-à-dire ce que je suis en train d'essayer de faire, montrer comment les mécanismes de domination, c'est quand finalement ils se révèlent, ils les rendent visibles sans l'avoir voulu, ça s'appelle une gaffe ou un lapsus, on dirait Freud, un lapsus politique, voilà, qui rend visibles les intentions, ouais, qui rend visibles ces intentions, ces dogmes néolibéraux dont je parlais tout à l'heure, pas pour emmerder le monde, mais parce que je crois que c'est vrai.
Et oui, donc c'était des sous et des hommes en compagnie de Gérard Mauger, qui parle beaucoup, hein, qui est donc directeur de recherche au CNRS. Et la semaine prochaine, je vous propose la rediffusion d'une émission que j'avais faite il y a très très longtemps, en 2002, avec Gilles Balbastre. C'était à propos de son documentaire qui s'appelait « Le chômage est une histoire » et ça va être encore d'actualité. Voilà, à la semaine prochaine.